Phil FM, il est 9h. Tout de suite, Simon et Rachel reçoivent notre invité spécial, Marie-Ange Lescure.
Bonjour Madame Lescure.
Bonjour.
Vous êtes journaliste et actuellement rédactrice en chef adjointe à France Bleu Touraine. Quel a été votre parcours professionnel ?
Alors mon parcours professionnel a commencé il y a quand même un certain temps, puisqu'il a commencé en 1982 dans une radio qui n'existe plus maintenant, qui s'appelait à l'époque Radio Monte Carlo. Quand j'ai commencé, il y avait quatre radios qui existaient. C'est ce qu'on appelait des grandes ondes. Il existait France Inter, Radio Monte Carlo, Europe 1 et RTL. C'est tout. Ce qu'on appelait la bande FM n'existait pas encore. Ce qu'on appelait ensuite les radios libres n'existait pas. Donc j'ai commencé en 1982 comme journaliste radio parce que j'avais choisi la radio comme média principal. C'était le seul qui m'intéressait. Parce qu'en fait, quand je faisais mes études de journalisme, pour faire de la télévision, il y avait par exemple un chauffeur pour conduire la voiture, un caméraman, un éclairagiste, un preneur de son et le journaliste. À chaque fois, c'était une équipe qui partait. Pour la presse écrite, il fallait avoir un stylo et un cahier, mais pour pouvoir faire publier son article, il fallait téléphoner au journal, parler avec une sténo qui recopiait l'article en sténo, qui le transformait ensuite pour que ça aille à l'imprimerie. Et la radio, c'était le moyen le plus facile. Il suffisait d'avoir un téléphone, où qu'on soit dans le monde, pour pouvoir faire de la radio.
Le 2 novembre, Ghislaine Dupont et Claude Verlon, deux journalistes de RFI, ont été tués au Mali, près de Cali. En 2011, 67 journalistes sont morts en exercice et 88 en 2012. Que pensez-vous de cette recrudescence ?
Je pense que la liberté de la presse recule. Je pense également que les groupes armés qui sévissent en Afrique, en Asie ou ailleurs ont bien compris aujourd'hui qu'avec la rapidité de diffusion de l'information, très rapidement, dans le monde entier, on pouvait voir ce qui se passait dans un pays. Et c'est pas pour rien quand il y a une rébellion dans un pays ou une révolte que l'on essaie d'abord en premier de prendre d'assaut la radio et la télévision. Parce que je crois que tous ces groupes rebelles qui autrefois étaient assez indifférents à ce que les gens pensaient d'eux ont bien compris, et on le voit avec notamment le groupe Al-Qaïda, on le voit, ils sont très sensibles à la diffusion de l'information et de leurs propres idées. Et le problème, c'est qu'encore aujourd'hui, beaucoup de journalistes vont pas sur le terrain pour porter la parole de ces gens-là, mais bien pour dénoncer leurs exactions. Et donc, comme ils font peu de cas de la démocratie et de la liberté de la presse, le meilleur moyen pour faire taire un journaliste, c'est de le tuer. Donc ils n'ont pas hésité au fil des années à tuer des journalistes pour les faire taire.
Lorsque le grand public imagine le métier de journaliste, il pense surtout au présentateur du 20h. Mais est-ce un métier si dangereux ?
C'est pas un métier dangereux, journaliste, parce que pour quelques hommes, malheureusement, de nos confrères comme Ghislaine, comme Claude, comme d'autres qui ont été tués dans l'exercice de leur métier, vous avez des centaines, des milliers de journalistes à travers le monde qui se lèvent tous les jours pour aller traiter de la vie quotidienne des gens, de l'actualité du jour qui se passe au Conseil général d'Indre-et-Loire, qui se passe, par exemple, au ministère de la Santé à Paris, qui se passe dans un bureau de tabac à Toulouse, à propos de la cigarette électronique. C'est aussi ça le métier de journaliste. Et ce n'est pas seulement le grand reportage ou le journal de 20 heures. Le grand reportage, c'est une partie de ce métier. Et le journal de 20 heures, il ne pourrait pas y avoir de journal de 20 heures s'il n'y avait pas des journalistes et qui se levaient tous les matins pour aller chercher des images, de l'information, du son, des photos, pour pouvoir faire, comme on dit, la grand-messe du 20h. La grand-messe du 20h, c'est deux personnes. C'est TF1, France 2, avec deux journalistes. Mais derrière, il y a toute une équipe qui travaille pour eux et qui travaille au quotidien de façon très ordinaire, sans pour autant aller à l'autre bout du monde chercher l'information.
Pensez-vous que les pouvoirs publics devraient davantage agir pour protéger les journalistes ?
En France, on a de la chance. On a on a des lois, on a des décrets, on a des règles qui font que la presse et la liberté de la presse est aujourd'hui est garantie. Lorsque une personne attaque un journal, par exemple, parce qu'elle n'est pas d'accord avec ce qu'il a publié à la une, c'est rare que cette personne obtienne satisfaction parce qu'on considère que la presse est libre à la condition, évidemment, qu'il n'y ait pas de diffamation, qu'elle ne porte pas atteinte à l'honneur des gens et qu'elle ne divulgue pas de fausses informations. À partir du moment où les journalistes font bien leur travail, en France, on considère qu'on peut laisser travailler les journalistes. Après, c'est très compliqué de protéger les journalistes parce qu'on peut se poser la question de savoir si un journaliste est tout à fait libre de ses mouvements lorsque, par exemple, comme au moment de la Seconde Guerre du Golfe, l'armée américaine et l'armée anglaise ont proposé aux journalistes d'être ce qu'on appelait embarqués, c'est-à-dire qu'il fallait être accrédité auprès de l'armée américaine ou anglaise et on avait le droit de se déplacer avec les militaires. Sauf que les militaires, à ce moment-là, ils ne montraient aux journalistes que ceux qu'ils avaient envie de voir. Et que les journalistes qui refusaient d'être embarqués, eux, travaillaient dans des conditions vraiment extrêmement compliquées. Alors c'est vrai que ceux qui étaient embarqués, logés sous la tente, avaient les rations des soldats américains, etc. Le problème, c'est qu'ils ne voyaient pas grand-chose, si ce n'est ce qu'on voulait bien leur montrer. Donc est-ce que là, vraiment, ils pouvaient exercer leur métier en toute liberté ? C'est un grand débat dans la presse.
Comment sont formés les envoyés spéciaux ?
Envoyé spécial, c'est pas un métier à part. C'est un métier de journaliste d'abord. On est d'abord journaliste, on est reporter, c'est-à-dire qu'on va sur le terrain, on fait du reportage, etc. Les envoyés spéciaux que vous pouvez voir à la télévision, que vous pouvez voir à la radio, vous pouvez entendre à la radio ou lire dans les journaux, ce sont des journalistes qui ont commencé, comme tous les autres, ils ont commencé par faire du fait divers, par aller faire du reportage dans les écoles ou ailleurs. Et puis un jour, ils se sont dit, je partirais bien dans tel pays. Voilà. Et ils ont fait preuve de leurs compétences. Et ils ont à un moment eu le titre d'envoyés spéciaux. Mais par exemple, aujourd'hui, en Afrique du Sud, pour les obsèques de Nelson Mandela, vous avez des centaines d'envoyés spéciaux. Ce sont des journalistes qui sont partis spécialement pour couvrir cet événement. Alors, on peut aller aux obsèques de Nelson Mandela aujourd'hui. Il y aura des envoyés spéciaux à la Coupe du Monde de football au Brésil, de la même façon qu'il y a des envoyés spéciaux qui vont au Mali, d'autres qui vont aux Philippines, etc.
Quelles recommandations leur donne-t-on ?
La prudence. Tout ce qu'on leur dit, c'est reviens vivant. Parce que suivant où ils vont, parce que je pense que là, vous faites référence aux journalistes, les envoyés spéciaux qui s'en vont sur des terrains de conflit. La seule chose qui nous intéresse, c'est que nos copains reviennent vivants. C'est quand vous les avez au téléphone et qu'ils sont en Afghanistan du côté de Tora Bora et que vous savez que la coalition, l'armée anglaise, américaine, française sont en train de bombarder parce qu'ils sont persuadés qu'il y a des caches d'Al-Qaïda à cet endroit-là, vous dites à vos copains qui sont juste à côté, vous leur dites « sois prudent, garde tes fesses parce qu'on a envie que tu rentres vivant ». Et quand Ghislaine et Claude sont partis au Mali, la seule recommandation qu'on leur a faite, c'est à bientôt et fais attention à toi.
Et vous-même, vous a-t-on déjà demandé de faire un reportage dans un pays où la sécurité des journalistes n'est pas garantie ?
Une fois, c'était en Algérie à une époque où il y avait beaucoup d'attentats. Il y avait une sorte de guerre civile qui se déroulait en Algérie entre les forces de gouvernement et d'autres partis politiques. Il y avait beaucoup d'attentats, il y avait beaucoup d'enlèvements. Et le problème, c'est que la seule façon dont ils avaient trouvé de permettre aux journalistes de travailler, c'était d'être sous escorte des services de sécurité algériens. Donc inutile de dire qu'on n'a pas pu faire ce qu'on voulait, qu'on ne pouvait pas aller où on voulait et que chaque fois qu'on bougeait un petit peu dans Alger ou ailleurs, on était très très escortés. Pour obtenir l'autorisation d'aller à tel ou tel endroit, on attendait quelquefois 2-3 jours à l'hôtel qu'on veuille bien nous la donner. Et de toute façon, on n'avait jamais le droit de bouger, si ce n'est sous l'escorte de plusieurs hommes armés. Donc ça ne facilite pas le contact avec la population et ça ne facilite pas le travail de reporter.
Les pays en guerre sont certes dangereux, mais que pensez-vous du classement de la France à la 38e place pour la liberté de la presse ?
Je le regrette profondément. Je préférerais qu'on soit plus haut dans le classement. J'aimerais beaucoup qu'on soit dans le top 10, comme on dit. À partir de là, c'est la liberté de la presse, c'est aussi aux journalistes de la défendre tous les jours. C'est aussi aux journalistes de refuser toute forme de pression, qu'elle vienne de quelques personnes qu'elle vienne, que ce soit des politiques, que ce soit un auditeur qui téléphone parce qu'il n'est pas content, parce que ce qu'il a entendu le matin, ça ne lui plaît pas. À partir du moment où le journaliste fait bien son métier, à partir du moment où il vérifie ses informations, où il a fait donner la parole à toutes les parties, à partir de là, je dirais que chacun est libre d'écouter ou non ce que dit le journaliste, de regarder ou non ce qui se fait à la télévision, de lire ou non le journal. Toutes les opinions sont recevables, mais c'est aux journalistes en premier de se battre pour leur propre liberté d'exercer leur métier.
J'ai lu récemment que vous étiez porte-parole pour le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU. En quoi consiste ce rôle ?
Alors en fait, c'est parce que j'étais journaliste que je suis devenue porte-parole du Haut-Commissariat pour les réfugiés des Nations Unies. J'ai été recrutée parce qu'en fait, il y avait beaucoup de porte-parole anglophones ou hispanophones, mais il n'y avait pas de francophones. Et le journaliste, il est un peu feignant sur les bords, c'est-à-dire que s'il trouve pas l'information en français qui l'intéresse, il va la chercher, mais il n'est pas très enclin à aller traduire de l'anglais pour trouver l'information. Donc j'ai été recrutée pour faire passer les messages du Haut-Commissariat pour les réfugiés. Le Haut-Commissariat pour les réfugiés a été créé après la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale avait déplacé des millions de gens à travers l'Europe. Il y avait des millions de gens qui ne vivaient plus dans leur pays et il fallait trouver des solutions, soit pour qu'ils rentrent vivre dans leur pays, soit pour qu'ils puissent trouver une terre d'asile ailleurs parce que leur pays n'existait plus. Il y avait beaucoup de pays comme l'Arménie, comme d'autres pays qui avaient été annexés par l'URSS. Et donc les gens n'avaient pas envie d'aller vivre dans ces pays-là. Et le Haut Commissariat a pour rôle, si vous voulez, de faire que ces gens-là existent légalement. C'est-à-dire, c'est pas parce que vous avez fui votre pays pour fuir la guerre, pour fuir les persécutions religieuses, pour fuir parce que vous n'êtes pas de la même race que les autres, que vous n'avez plus de statut, que vous n'existez plus dans le monde. Et le rôle du Haut Commissariat pour les réfugiés, c'est de faire que ces gens-là aient une existence et des droits et puissent un jour rentrer vivre dignement dans leur pays. Et donc le rôle du porte-parole, c'est d'expliquer ce qu'est un réfugié, d'expliquer ce qu'est la Convention de Genève de 1951 sur le statut des réfugiés, c'est de faire prendre en compte aussi bien par les politiques mais aussi par les associations ou dans les collèges, les écoles, la situation des réfugiés dans le monde. Aujourd'hui, il y a 32 millions de personnes qui ne vivent pas dans leur pays dans le monde, qui sont réfugiés, dont quelques milliers en France.
Au-delà du rôle institutionnel, qu'est-ce qui vous a donné l'envie d'accomplir cette mission ?
Alors en fait, il se trouve que au cours de ma vie, j'allais dire privée, je suis partie en voyage avec un autre de mes amis journalistes au Cambodge. Et en 1991, il y a eu à Paris des négociations entre différents partis politiques cambodgiens, dont les Khmer Rouges, pour mettre fin à une guerre civile qui a duré pendant près de 30 ans. Elle a commencé dans les années 60 et elle s'est terminée par les accords de paix à Paris en 1991. Donc on est allé en voyage au Cambodge parce que à l'époque on parrainait des enfants dans une association pour pouvoir les envoyer à l'école, etc. Et en découvrant ce pays, j'ai assisté un matin à l'arrivée d'autobus avec plein de gens dedans. C'était des gens qui avaient passé les 20 dernières années de leur vie dans des camps de réfugiés en Thaïlande. Parce que dans les années 70 ou 75, quand les Khmer Rouges sont arrivés, ils avaient fui vers la Thaïlande, qui est le pays voisin, et ils avaient vécu depuis dans des camps de réfugiés. Et le problème, c'est que ces gens-là, ils ne reconnaissaient plus le pays dans lequel ils arrivaient, parce que ce pays avait été dévasté par la guerre. Et les gens qui avaient vécu, eux, dans ce pays, les Cambodgiens, Il les regardait avec beaucoup de colère et quelquefois de la haine parce qu'ils étaient persuadés que pendant qu'eux souffraient dans leur propre pays, les autres avaient très très bien vécu dans des camps de réfugiés. Mais les camps de réfugiés, on n'y vit pas bien parce qu'on y vit dans de mauvaises conditions, parce qu'on est à la merci des soldats, on est à la merci de la volonté politique du pays qui vous accueille et on a beau être assisté par des ONG, vivre sous une tente ou vivre sous des branchages, comme ça se fait dans certains pays d'Afrique, par exemple dans l'est du Tchad, pour les réfugiés du Darfour, ça a jamais été sa propre maison, ça a jamais été son propre village. Et donc, moi, ce qui m'intéressait dans cette mission, c'était de faire en sorte qu'il y ait peut-être un peu moins d'incompréhension entre les uns et les autres, et surtout, ne plus entendre un discours qui me met extrêmement en colère quand j'entends dire, par exemple, dans mon propre pays, que ces gens-là viennent chercher toute autre chose. Il y a 32 millions de gens dans le monde qui cherchent la sécurité pour eux, pour leur famille. Il y a des femmes ou des jeunes filles qui ont 12 ans, 13 ans, qui fuient leur pays parce qu'elles ne veulent pas être mariées de force à des hommes qui ont 50, 60 ans. Elles ne veulent pas être excisées. Et donc, ces femmes ou ces petites filles peuvent obtenir l'asile en France. Et puis moi, j'ai un grand-père qui, lorsque Mussolini a pris le pouvoir en Italie à la fin des années 30, a décidé qu'il ne servirait pas un fasciste. Et donc, il est venu se réfugier en France. Donc, pour toutes ces raisons, j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir à travailler et à remplir cette mission pour le Haut-Commissariat pour les réfugiés.
Pour terminer sur une note plus légère, pouvez-vous nous parler de la formation de journaliste ?
Alors, la formation de journaliste, c'est une formation au long cours. C'est-à-dire que quand moi j'ai fait des études de journaliste dans les années 1980 à 1982, bon, je dirais que il suffisait de beaucoup de bonne volonté, du culot et on devenait journaliste. Aujourd'hui, ce qui est recommandé aux jeunes qui veulent être journalistes, bah, c'est d'aller déjà jusqu'au baccalauréat. Après le baccalauréat, je dirais que le cursus le plus fréquenté en général, c'est de faire Sciences Po. Parce que Sciences Po, ça mène pas vraiment à quelque chose de très précis, mais en tout cas, ça a un mérite, c'est que ça donne une très bonne culture générale. Et ensuite, quand on a fait quelques années d'université d'une façon ou d'une autre, parce qu'il faut acquérir un certain niveau, on passe les concours d'entrée dans les écoles de journalisme. Alors, il y en a plusieurs. La plus célèbre et la plus fameuse, c'est l'École supérieure de journalisme de Lille. Après, il y a le centre de formation des journalistes qui se trouve à Paris. Il y a un IUT à Strasbourg, il y a un IUT à Bordeaux, ce sont les écoles historiques. Et puis, vous avez un IUT à Tours qui est de très bon niveau. Lorsque je travaillais pour le HCR, chaque année, on organisait avec le journal Le Monde un concours où les journalistes, les étudiants en journalisme, devaient rédiger un article sur les réfugiés et l'asile en France. Et celui qui écrivait le meilleur article était publié dans le journal Le Monde le 20 juin, qui est la journée mondiale des réfugiés, et il partait pendant 10 jours sur le terrain avec une mission du HCR. Et deux années de suite, c'est l'IUT de Tours qui a gagné ce concours.
Merci beaucoup Marie-Ange Descure de nous avoir accordé cette interview. Au revoir et à bientôt sur Phil FM.
Avec plaisir, merci.
Oui, ouais, web radio. Oui, ouais, web radio.